Bonjour Florian, comment vas-tu?
Bonjour Bruno, ça va, je te remercie. Et toi?
Très bien, merci. Alors pour débuter ce nouvel épisode, peux-tu nous décrire qui tu es et quel est ton background?
Qui suis-je? On va dire un grand garçon de 40 ans, fils d'un ingénieur en informatique et d'une professeure de piano. J'évolue avec les deux types de claviers depuis mon plus jeune âge et pour joindre ces deux domaines, j'ai choisi l'art et la science de la médecine. Si j'aspirais à devenir psychiatre, je suis finalement devenu docteur en santé publique et médecine sociale et je me suis spécialisé en information et informatique médicale en santé mentale. Pendant 4 ans, j'ai été chef du département d'information médicale, on dit le DIM, d'un établissement de santé mentale. J'ai été responsable du paramétrage du dossier patient informatisé, du codage, de l'analyse et de la diffusion de la data générée par tous les professionnels de santé de l'hôpital. Mais il y a 2 ans, j'ai choisi d'exercer la santé mentale au plus près des patients, au plus près des professionnels de santé. Et pour ce faire, je me forme actuellement à la psychiatrie clinique pour devenir un psychiatre 2.0.
Très bien. Quelle est la problématique constatée dans le milieu de la psychiatrie?
Le problème, c'est la crise. En psychiatrie, on définit la crise comme un état réversible temporaire correspondant à une rupture d'équilibre relationnel du sujet avec lui-même et son environnement. Si on transpose cette définition à l'échelle de notre société, on peut dire qu'elle connaît elle-même une période de crise et que son offre de soins psychiatriques n'en est qu'un prisme. Le modèle psychiatrique actuel repose essentiellement sur le concept de la sectorisation, créé en 1960 dans un mouvement humaniste post-Seconde Guerre mondiale. S'il a eu comme objectif de dépasser le concept d'asile en développant une psychiatrie dite « hors les murs », aujourd'hui, on peut penser que malgré lui, il a dressé une forteresse entre la psychiatrie et le monde d'aujourd'hui. Tout en respectant ses valeurs fondatrices, il s'agit désormais de faire un update, c'est-à-dire d'actualiser ce modèle en intégrant la psychiatrie dans celui plus global qu'est celui de la santé mentale, défini par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, comme un modèle tridimensionnel. Les troubles psychiatriques avérés, la détresse psychologique réactionnelle et l'épanouissement personnel. Si la psychiatrie assure aujourd'hui une prise en charge totale, la santé mentale repose sur un modèle global qui intègre les personnes atteintes d'un trouble psychiatrique ou pas. Elle concerne donc chacun de nous.
Et pour quelles raisons serait-il intéressant d'adopter la domotique dans ce type d'infrastructure?
Après une actualisation de notre système psychiatrique, il s'agit donc de l'upgrader, le mettre à jour. Comment? En lui faisant profiter des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et parmi elles, la domotique. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de télémédecine, où l'informatique sert d'intermédiaire entre deux humains. Téléconsultation, téléassistance, téléexpertise, etc. C'est un outil très intéressant pour augmenter l'offre de soins. D'ailleurs, je travaille actuellement dessus. Mais avec la domotique, l'informatique n'est plus un intermédiaire. Elle est au service de l'humain. Les détracteurs y verront une déshumanisation des soins. Les progressistes, une humanisation des soins. Plutôt que de saisir dans un logiciel des années 80 qu'un patient occupe tel lit d'hospitalisation, qu'il est sorti d'une unité de soins, qu'il a participé à telle activité, etc., on évite aux professionnels de santé un ensemble de tâches administratives pour lui faire gagner du temps disponible pour lui, le patient et les soins.
Tous les hôpitaux psychiatriques pourraient-ils bénéficier de cette domotique?
La réponse est oui, mais à la condition que son application soit simple, fiable, reproductible, acceptable, peu coûteuse et valide.
Et quelles seraient les étapes de mise en œuvre pour obtenir une solution domotique adaptée?
À ma connaissance, il n'existe pas encore d'application valide. Et il faut bien commencer quelque part. Parmi les sujets sensibles du moment en psychiatrie, il y a celui de l'isolement et de la contention. S'il s'agissait d'une thérapeutique en plus de celle des traitements médicamenteux, il s'agit davantage aujourd'hui d'un moyen permettant d'accéder aux soins pour des personnes dont l'état psychique du moment ne leur permet pas d'y consentir. Et depuis l'apparition de recommandations de la Haute Autorité de Santé en 1998, cet isolement plus ou moins contention doit se faire dans un espace dédié et sécurisé. Pour autant, des abus de leur pratique ont fait l'objet d'une circulaire parue en 2017 et qui stipule qu'il doit s'agir d'une solution uniquement de dernier recours pour prévenir un danger immédiat ou imminent. Clairement, il était temps que cette circulaire paraisse, j'en suis témoin. Mais si je peux lire beaucoup d'incantations pour prévenir ces isolements et contentions, j'ai pas encore vu de solution concrète. C'est alors que je me suis dit que la domotique pourrait devenir une alternative. Pour ce faire, j'ai reconsidéré la notion de chambre d'apaisement. Historiquement, elle se voulait être un espace alternatif à celle dédiée à l'isolement et la contention, mais le temps l'a fait perdre sa distinction et diminuer son nombre, voire même supprimer son existence. Avec la domotique, je requalifie cette chambre d'apaisement en donnant la possibilité pour son utilisateur d'en rester acteur. Si le patient reste passif en chambre d'isolement, dans cette chambre d'apaisement, il reste maître de son environnement en agissant sur ses sens. Pour commencer, j'ai développé un prototype à la maison capable de permettre à l'utilisateur de choisir la couleur de la pièce et le son l'accompagnant, avec comme objectif de proposer une combinaison couleur et son pour chaque état émotionnel. Mais pour tester la solution en situation réelle, il fallait que je professionnalise mon prototype d'amateur. Pour ce faire, je me suis mis en contact avec Bruno Tellez, un enseignant de l'Institut universitaire de technologie informatique de Bourg-en-Bresse. Et actuellement, deux étudiants travaillent sur la partie software, dont un chez JDOM.
Selon toi, quels sont les dispositifs judicieux et à adopter ?
La psychiatrie est pauvre et il n'y a pas de petites économies. Lorsque j'étais médecin DIM, j'ai eu la chance de rencontrer un informaticien qui m'a initié au monde de l'open source, à la recherche d'une solution efficiente et donc gratuite pour que les professionnels de santé apprennent à utiliser le dossier patient informatisé. Cet informaticien m'a dédié un serveur où j'ai pu administrer un site intranet avec WordPress dessus, dans lequel j'ai publié des articles de vulgarisation sur la formation médicale en psychiatrie, des tutos écrits puis vidéos, puis des web apps, etc. Curieux de savoir comment ça marchait tout ça, bah, il m'a appris ce qu'était qu'un serveur et comment en installer un chez moi avec Ubuntu. J'ai ensuite découvert Linux, puis GitHub, puis Docker, etc., etc. Me rappelant au passage que le monde informatique était aussi vaste et complexe que celui du psyché. Je me suis donc naturellement tourné vers les solutions software open source pour respecter les conditions dites précédemment. Peu coûteuses puisque gratuites, ou du moins leur code source, fiable puisque reposant sur une communauté d'utilisateurs et contributeurs nombreux, réactifs, libres et indépendants, et reproductible puisque les codes sources sont librement accessibles. Quant aux solutions hardware, j'ai aussi voulu respecter les mêmes conditions, en utilisant le principe mis à disposition du particulier, le do-it-yourself, avec un Raspberry Pi, un micro USB, une enceinte USB, une ampoule multicolore, et puis finalement tout ce qui me passait sous la main.
Pourquoi opter pour des assistants vocaux ?
En Suisse, des informaticiens avaient développé une chambre d'isolement musicale, permettant à un patient isolé de choisir dans la chambre d'isolement une musique parmi une playlist, en appuyant sur des touches avec symboles disposées sur un des murs de la chambre d'isolement. Mais pendant ces temps d'isolement, il est possible que le patient soit aussi contenu, parce que son état sur le moment représente un danger immédiat pour lui-même, malgré un accompagnement humain et médicamenteux. Alors que j'assistais à leur présentation du dispositif lors d'une journée nationale de recherche en psychiatrie, je leur ai posé la question suivante. Mais comment on fait qu'on est contenu ? Et avant d'entendre leur silence, j'ai eu ma réponse. La commande vocale, quoi de plus simple ?
Quelles idées de scénarios seraient utiles pour une meilleure expérience du patient ?
À partir du moment où j'ai pensé à l'assistance vocale, mon cerveau s'est mis en route et je me suis posé un tas de nouvelles questions. Jusqu'à ce que je me dise qu'on pourrait utiliser ce système non pas dans le cadre d'une chambre d'isolement à visée curative, mais en amont, à visée préventive. Mais comment ? Pour information, avant d'en arriver à l'isolement et à la contention, on dispose actuellement de deux moyens. La parole, puis le traitement médicamenteux. Il s'agit donc de développer une troisième alternative en proposant un espace d'apaisement isolé, sécurisé, où l'utilisateur pourra choisir une ambiance selon son état émotionnel. Et en termes d'émotions, il existe toute une palette, avec en regard autant de réponses et de scénarios possibles. Euphorie, exaltation, colère, tristesse, etc. Exemple, si un patient se sent en colère, il pourra dire à l'assistant vocal « Mets-moi un truc qui défoule ». Et alors le système déclenchera une couleur rouge avec une musique style rock'n'roll, scénario pendant lequel il pourra se défouler donc, en dansant, criant, frappant sur un punching ball, etc. Autre exemple, si le patient se sent trop dispersé, il pourra dire « j'ai besoin de calme », ce qui déclencherait alors une lumière bleue et un son de vague, scénario pendant lequel il pourra s'apaiser, en s'asseyant, en s'allongeant, en méditant, etc. J'ai fait une recherche bibliographique et plusieurs études scientifiques ont corrélé de manière statistiquement significative l'association d'une couleur à un état émotionnel correspondant. Ne me reste plus qu'à paramétrer tout ça. Mais tout ça, c'est la première étape. Je veux un système dynamique, où l'utilisateur pourra toujours affiner le scénario en cours, en jouant sur le son ou la lumière, notamment en lui laissant la possibilité de choisir un stimulus différent et ou de jouer sur leur intensité. Je veux un système évaluable, dans le sens où chaque usage personnalisé générera des logs que je serai capable d'analyser afin de faire évoluer l'outil, comme je devrais être capable de mesurer l'impact de l'utilisation de cette chambre sur la qualité des soins. En mesurant si oui ou non on a un moindre recours à l'isolement, si oui ou non on diminue la durée d'hospitalisation, si oui ou non on diminue la consommation de médicaments, etc.
L'expérience du professionnel sera-t-elle également améliorée ?
Comme dit précédemment, l'expérience du professionnel en sera grandement améliorée, puisque si la solution est efficace, il n'aura plus à gérer la crise, mais la prévenir. Et plutôt que d'endosser le rôle de celui qui aura privé le patient de ses libertés, le professionnel deviendra celui de l'aidant qui lui aura permis de les conserver. Et d'ailleurs, pourquoi le professionnel ne profiterait pas lui-même de l'outil ? À l'instar des laboratoires pharmaceutiques qui doivent tester l'innocuité d'un médicament sur sujet sain avant mise sur le marché, j'envisage de tester ma solution d'abord avec mes collègues, sains donc, avant d'en faire profiter les personnes souffrant de troubles psychiatriques avérés.
Devez-vous impérativement vous passer d'Internet ?
Dans les systèmes de santé, nous faisons du soin et générons des données de santé dites sensibles, imposant le respect d'une législation rigoureuse, notamment celle du Règlement général de la protection des données, dit RGPD, mais de plus celle de l'hébergement de données de santé, dit HDS. Nous pouvons tout à fait utiliser Internet et alors stocker les données sur des serveurs distants ayant l'agrément HDS, mais nous pouvons aussi utiliser notre propre système informatique hospitalier ayant ses propres serveurs in situ, lui octroyant de facto ce dit agrément. Mon prof de maths du lycée vantait le mérite d'être partisan du moindre effort. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir rester maître des données que l'on génère. J'ai donc choisi la deuxième option, acceptable, et que m'ont permis JDOM et SNPs.
Avec une solution comme SNPs et JDOM, les données ne seront donc pas transmises sur Internet.
Si l'on doit au préalable utiliser Internet pour télécharger l'image de JDOM ainsi que l'assistant configuré pour une utilisation personnalisée de SNPs, une fois installé sur la carte SD de son Raspberry Pi, vous pouvez tout simplement le déconnecter d'Internet. L'installation fonctionne en totale autonomie et toute la data générée reste en boutique.
Cela représenterait-il un bon investissement selon toi ?
Mon prototype m'a coûté 150€ tout compris. Un certain coût à l'échelle d'un particulier, un coût insignifiant à l'échelle d'un établissement hospitalier. Donc ma réponse à la question est oui, sans hésitation.
Envisages-tu d'autres usages de domotique dans le futur, dans le milieu de la psychiatrie ?
Si cet exemple de domotique s'applique à une solution comme alternative à l'isolement et à la contention, on pourrait très bien l'appliquer à n'importe quelle chambre d'hospitalisation en psychiatrie. Et qui sait, il pourrait très bien aider à la relaxation comme à l'endormissement à la place d'un traitement médicamenteux. Même si le nombre de lits d'hospitalisation en psychiatrie a énormément diminué depuis les 50 dernières années, il en existe encore 50 000 en France et donc possiblement 50 000 bénéficiaires chaque jour. Comme autre application, j'envisagerais bien la réalisation par la domotique de tâches administratives réalisées à ce jour par les soignants. La localisation d'un patient, affectation d'un numéro de chambre, transfert d'un service à un autre, etc. La validation de l'administration d'un traitement médicamenteux, la participation à un atelier thérapeutique de groupe, la durée d'un entretien et avec qui, etc. Bref, autant de tâches qui me rappellent qu'un professionnel de santé n'est pas payé pour ça.
Pour finir, as-tu des informations utiles à nous transmettre te concernant ?
Utile, je sais pas, mais si vous êtes curieux, cherchez-moi sur la toile.